Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, bienvenue à l'écoute du journal, donc voici les titres. Vive tension ce mercredi matin à Goma à travers la ville. Les manifestants ont barricadé plusieurs artères du réseau routier suite au meurtre d'un jeune conducteur par un élément de la police en opération de bouclage forcé de véhicules. Deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés lundi dernier et hier mardi parmi les déplacés de Kwamout qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. C'est suite au manque de soins appropriés et aux conditions alimentaires déplorables, annonce le ministère en charge des actions humanitaires du Kwilu. Notre invité est le ministre d'État aux Affaires étrangères, Commonwealth et Développement et en même temps envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle. Après une mission qu'il a conduite à Bukavu et à Kinshasa, Lord Tariq Ahmad se félicite de l'appui de son pays à la RDC dans la lutte contre ce fléau. Mesdames, Messieurs, bonjour. À Goma, la tension était vive ce mercredi matin à travers la ville. Plusieurs artères du réseau routier ont été barricadées par des manifestants, occasionnant une paralysie partielle des activités socio-économiques. C'est suite à l'appel à la journée ville morte lancé par les mouvements citoyens au lendemain du meurtre d'un jeune conducteur d'environ 23 ans par un élément de police en opération de bouclage forcé des véhicules. Mais la police a été déployée pour rétablir l'ordre. Des détails avec Bernard Nyangi.
Sur les axes routiers campus du lac et musée croisement Temka entrée office de route, des jeunes manifestants plaçaient des pierres et brûlaient des objets sur la chaussée depuis 6 heures locales déjà. Mais la police qui s'est déployée a réussi à dégager ces barricades. Autour de 7h30, la circulation était déjà rétablie. Pendant ce temps, d'autres manifestations sporadiques ont été enregistrées ça et là dans la ville et où des tirs de sommation lancés par les policiers pour établir l'ordre ont été entendus. Cette situation a paralysé des activités socio-économiques et quelques écoles n'ont pas pu fonctionner. Rappelons que ceci est la réponse à des appels à la journée ville morte lancés par quelques mouvements citoyens de mardi soir. C'était peu après le meurtre d'un jeune conducteur par un élément de la police à un barrage de recouvrement forcé des taxes de circulation routière qui est à son troisième jour ce mercredi à Goma. Alors que le manifestant exige l'arrêt de cette opération, dans un communiqué hier soir, la Direction générale des recettes du Nord Kivu de GRNK a annoncé, elle, que le bouclage se poursuit, mais que certains points de contrôle seront plutôt délocalisés. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours à Goma, l'agent de police Bahati, comparé depuis la matinée de ce mercredi devant le tribunal militaire, près l'auditorat des garnisons de Goma, en procédure de flagrance. Cet élément de l'unité corps de garde est poursuivi pour violation des consignes et meurtre, indique le premier substitut du procureur pour le tribunal militaire de garnison. Celui-ci était commis pour renforcer le bouclage de recouvrement de taxes sur le véhicule lorsqu'il a tiré mortellement hier mardi sur un conducteur et qui est mort à ses blessures. L'instruction du dossier est en cours et le verdict est attendu ce même mercredi. Et puis dans les territoires de Beni, la situation est redevenue calme depuis hier soir à Boutoué, chef-lieu du groupement Malio. C'est après une demi-journée tendue qui a entraîné la paralysie des activités scolaires dans cette agglomération de la chefferie des Bachou. De suite à l'arrestation par les forces de sécurité d'un enseignant en plein milieu de son cours à l'école primaire Boutoué. La société civile du groupement Malio qui condamne cette attitude affichée par les militaires et policiers plaide pour que justice soit faite. Des explications avec vous, Grévis Salomon.
D'après nos sources sur place, les faits remontent à hier mardi aux environs de 11h locales lorsque deux policiers et trois militaires ont surgi dans une salle de classe à l'école primaire Moutoué pour procéder à l'arrestation d'un enseignant alors qu'il dispensait un cours. N'ayant pas accepté le fait de voir leur enseignant brutalisé, les écoliers se sont opposés à cette arrestation par des cris d'alerte adressés à leurs collègues des autres écoles voisines pour qu'ils viennent les aider. Au même instant, un militaire a tiré une balle en l'air pour tenter de disperser la foule. Cette situation qui a créé une psychose auprès de la population croyait à une attaque a été à la base de la paralysie des activités scolaires dans cette agglomération située au nord-ouest de Boutembo. En début de soirée, l'enseignant qui était déjà détenu dans un campement militaire de la place a finalement été libéré. Maître Maombi Kaonga, président de la société civile du groupement Malio, appelle les autorités à se saisir de cette affaire pour que justice soit faite au regard de ces troubles à l'ordre public causés par les forces de sécurité. Nos efforts pour avoir la réaction des responsables de l'armée ou de la police au niveau local n'ont pas abouti.
En Ituri, plus de 250 criminels ont été arrêtés et environ 500 armes récupérées par la police au cours des 17 derniers mois. C'est le bilan à mi-parcours du commandant provincial de la police nationale congolaise, Ngoï Sengeloa Séguin, à la tête de la police dans cette province, présenté lundi dernier à la presse à Bounia. Il demande à la population de continuer à faire confiance à la police et de l'accompagner dans sa mission. Suivez cet extrait des propos du général Séguin Ngoï Sengeloa, choisi par Martial Kizabiamungu.
Ce que nous avons fait avec brio, la police d'investigation criminelle a interpellé non seulement dans la ville de Bounia, mais tout autour de Bounia également, tous ces malfaiteurs qui se cachent quand ils ont commis leur forfait. Dans cet élan de redynamisation des services, nous avons voulu que les services se mettent debout avec l'investigation criminelle. Je vous informe que pendant toute la période, depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 450 armes récupérées. Plus de 250 criminels arrêtés. Dans ces criminels-là, vous avez des gens qui appartiennent à des groupes armés qui viennent chercher à vivre à Bounia, parce que Bounia est économiquement rentable, donc ils peuvent venir gagner de l'argent en tuant, en volant. Nous avons dans les groupes là des malfaiteurs, des brebis galeuses qui appartiennent parfois aux forces de l'ordre. Si ce n'est pas des déserteurs de l'armée, c'est parfois des déserteurs de la police.
Deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés lundi dernier et hier mardi parmi les déplacés de Kouamout qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. Selon le directeur de cabinet du commissaire général en charge des actions humanitaires au Kwilu, il s'agit d'un enfant de 8 ans à Bandundu et d'une femme à Fatundu. Ils sont décédés suite au manque de soins appropriés et aux conditions alimentaires déplorables. Jérémy Bikiele indique que ces deux nouveaux cas, ces deux nouveaux décès amènent la province de Kwilu à un cumul de 6 décès déjà depuis qu'elle a commencé à accueillir des déplacés au mois d'août dernier. Il explique au micro d'Irène Boma.
Nous venons d'enregistrer deux nouveaux cas de décès à Bandunduville et dans la cité de Fatundu. Donc c'est suite au manque des soins appropriés et aux conditions de vie qui sont encore précaires auprès de déplacés qui sont victimes des conflits Tekeyaka dans le territoire de Kouamout qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. Nous continuons à enregistrer les cas de déplacés qui continuent à venir. Nous sommes à 6 décès aujourd'hui. L'appui de Médecins Sans Frontières est très important aujourd'hui parce que le nombre de personnes qui sont malades continue à augmenter. Il y a d'abord les mauvaises conditions d'alimentation pour le cas de la femme à Fatundu, parce qu'elle était déshydratée, il n'y avait pas les soins appropriés. Et pour l'enfant, la fille de 8 ans, c'est suite au manque de soins appropriés. Donc les parents ne l'ont pas amenée à l'hôpital au temps opportun. Il y a eu plusieurs missions d'évaluation des besoins, de bénéfices, des déplacés, mais jusque-là, il n'y a pas encore une réponse immédiate, urgente, qui est apporté en faveur des déplacés.
Au nord, Oubangui, environ 10 000 personnes dans l'aire de santé de Goumba-Lego, à 45 km de Yakoma Centre, ne savent plus où aller se faire soigner. En cause, l'écroulement de leur centre de santé depuis 5 jours. Le bâtiment a été construit en daube et il s'est effondré dans l'eau, immergeant tout le matériel. Surtout, les quelques médicaments qui étaient disponibles ont été complètement détruits, indiquent des témoins. À ce jour, la population composée également d'un nombre considérable de réfugiés centrafricains doit transporter les malades à moto ou à vélo jusqu'à Yakoma, soit encore à Dondou, Bossa, Limassa et d'autres centres à des dizaines de kilomètres. Voilà pourquoi le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Nord Oubangui, qui livre l'information, appelle à un secours d'urgence. Taylor Taïma a été joint par Paul Richard Malengela.
Avec cette inondation, les centres de santé de Goumba se trouvent sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une destruction totale. Il n'y a même pas moyen qu'on puisse soigner les gens là-bas. Tout se trouve dans l'eau et surtout que c'était construit avec le briques d'or, il n'y a plus rien là-bas. C'est une situation grave parce qu'un grand groupement qui regorge une population très dense, avec les réfugiés également, comment ils vont vivre sans centre de santé? C'est pourquoi nous demandons aux amis de bonne volonté, surtout au gouvernement central, au gouvernement provincial, agir dans l'urgence, sans oublier aussi les partenaires tels que l'UNICEF, l'OMS et les autres, pour qu'ils puissent venir en aide pour cette population-là qui se trouve dans un état de détresse le plus avancé. Parce qu'aujourd'hui, sans centre de santé, il n'y a même pas de produits, comment on peut vivre? Et nous demandons si on puisse assister même avec les bâches de vivre et de non-vivre qui puissent aider tant soit peu cette population-là. Sans oublier tout ce qui se trouve tout au long de la rivière Ouélé, la rivière Oubangui.
Découverte d'un lot important d'un train de lutte contre la malnutrition en Mbujima et au Kassai oriental. Ces intrants ont été trouvés dans la nuit de lundi à hier mardi dans une maison résidentielle située au quartier Masanka dans la commune de Dilou en Mbujima. Ils sont constitués de boîtes d'huile végétale, des sacs de la farine de maïs, des bidons vides d'une motocyclette. D'après le médecin, chef de division provinciale de la santé, ces intrants sont ceux remis régulièrement à l'ONG Congo Nouveau Prospère par le programme alimentaire mondial pour être distribués dans les zones de santé où les cas de malnutrition ont été notifiés. Écoutons à ce sujet Dr Bonheur Tshitekou, chef de division provinciale de la santé, au micro de nos confrères de la radio-télévision de Bukassai.
C'est autour de 20h que nous avions eu l'information par le service territorial qu'il y a des intrants de lutte contre la malnutrition qui sont entreposés dans une des maisons dans les quartiers en face de la BCC. J'ai été aussi appelé par le ministre de l'Intérieur. Nous sommes venus, on a trouvé une dame. Nous avions demandé si réellement il avait des choses dans sa maison et là tout lié. On a fait recours au service de sécurité. On nous a envoyé quelques policiers qui sont arrivés. Nous avons essayé de fouiller dans la maison. C'est là qu'on a trouvé beaucoup de intrants de lutte contre la malnutrition. On a trouvé dedans des boîtes d'huile végétale, de la farine, des blanquidoses. Nous avons trouvé des bidons qui sont des intrants donnés par PAM à travers Bonopro. Nous avons trouvé une moto portant la mention Bonopro. Tout ce que nous connaissons, ce sont les intrants qui sont donnés par Bonopro, qui reçoit aussi l'appui des PAM. Et ces intrants doivent aller dans les zones de santé pour la distribution à la population, beaucoup plus les enfants de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
Au Congo central, pour la première fois depuis l'existence du barreau du Congo central, une femme vient d'être élue bâtonnier. Maître Chérine Lousaïssou Lusienge a obtenu 665 voix sur 1111 votants. Les résultats ont été rendus publics vers 4h du matin, ce mercredi, à l'issue de l'Assemblée générale élective des avocats près de ce barreau. Dans une interview exclusive à Radio Okapi, le nouveau bâtonnier du Congo central a énuméré plusieurs défis. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Ayant obtenu la majorité absolue des voix, soit 655 sur 1111 votants, Maître Chérine Lousaïssou Lusienge remporte la victoire face à deux compétiteurs au bâtonnat du Congo central. Ainsi, cette femme, avocate aussi à la Cour pénale internationale, devient la première femme bâtonnière du Conseil de l'Ordre du Congo central depuis son existence en 1982 et la deuxième en RDC après Rose Toumba du barreau du Katanga qui d'ailleurs est fin mandat. Ayant accompli 22 ans de carrière dans la profession d'avocat, les nouveaux bâtonniers disent avoir la connaissance des mots qui minent cette profession noble. Elle promet s'y atteler. Maître Chérine Lousaïssou Lusienge.
Je parle de la sécurité sociale de l'avocat. Il faut qu'on trouve des solutions pour les problèmes de santé de l'avocat. On réfléchit à filiation, à des mutuelles de santé. Il y a aussi la CNCS, la Caisse nationale de retraite. Il y a aussi la sécurité professionnelle de l'avocat dans son travail. J'ai mis un accent aussi sur la lutte contre la corruption qui gangrène le système judiciaire. Je parle aussi des antivaleurs. Je parle aussi du barème. Les avocats doivent se former pour être compétitifs, que la profession puisse s'adapter au numérique.
À ce poste, Chérine Lousaïssou remplace Maître Alain Mavambou et devient le 8e bâtonnier à présider à la destinée de cette institution. Elle sera secondée par 15 membres du Conseil de l'Ordre qui seront élus parmi les 23 postulants le 12 novembre prochain. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En première ligne dans la lutte contre Ebola en Ouganda, 5 agents de santé avaient contracté le virus après avoir soigné le premier cas confirmé en septembre. Rétablis, ils ont reçu leur certificat de guérison demain de la ministre de la Santé lors d'une cérémonie à Entebbe. Au moins 108 personnes ont été tuées en Iran dans la répression des manifestations déclenchées il y a près d'un mois par la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs, a indiqué ce mercredi une ONG. Les forces de sécurité iraniennes ont également tué au moins 93 personnes dans des heurts distincts à Zaïdan, dans la province de Sistan-Baloutchistan, au sud-est, a rapporté l'organisation Iran Human Rights.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre d'État aux Affaires étrangères, Commonwealth et Développement, en même temps envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle. Après une mission qu'il a conduite à Bukavu et à Kinshasa, Lord Tariq Ahmad se félicite de l'appui de son pays à la RDC dans la lutte contre ce fléau. Il répond aux questions de Jean-Pierre et Lali Koko.
Monsieur Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, bonjour.
Bonjour.
À Bukavu, vous avez visité l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege. Vous avez rencontré les officiels congolais ici, même à Kinshasa, à commencer par le président Félix Tshisekedi. Que peut-on retenir de vos entretiens et de l'objet même de votre visite?
Tout d'abord,
ce fut un plaisir de visiter la RDC pour la première fois avec Sa Majesté la Comtesse. Puis c'était essentiellement pour aborder les questions liées au conflit et aux violences basées sur le genre et consorts. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est à l'avant-garde, chef de file au fait, de toutes ces initiatives au niveau mondial. Il doit tourner autour de ça essentiellement. Nous avons eu l'opportunité de visiter l'hôpital de Panzi avec le docteur Mukwege et également visiter les autres survivants. C'est vrai que le défi demeure ici en RDC par rapport aux différentes formes de violence, mais nous avons de l'espoir et cet espoir nous vient essentiellement des survivants. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, président de la RDC. Et nous avons aussi rencontré la ministre du Genre, Famille et Enfants, ministre de la Justice. C'était des discussions bilatérales très fructueuses. Nous avons aussi discuté du renforcement du rôle même que le Royaume-Uni joue dans toutes ces initiatives-là.
Votre pays a accordé en 2019 2,7 millions de livres sterling au Global Survivor Fund du docteur Mukwege. 3 ans après, les besoins se sont accrus, certes. Votre pays, vous l'avez dit, apporte son soutien à la lutte contre les violences sexuelles. Quelle a été votre contribution lors de cette visite en termes, bien sûr, d'appui de la lutte contre ce fléau dans l'est de la RDC?
The Panzi Hospital, indeed.
Pour ce qui est de l'appui que le Royaume-Uni apporte à Panzi, c'est vrai que même les premiers bâtiments de Panzi ont été construits sur fonds du Royaume-Uni. Nous avons apporté un financement initial de 1 million, mais comme vous l'avez dit, c'est allé jusqu'à 2,7 millions de livres. Nous apportons non seulement un appui technique sur une variété de sujets, mais également pour tout ce qui concerne la justice, la redevabilité. Il y a plusieurs initiatives que le docteur Mukwege est en train de chapeauter. Notre appui se résume en appui technique.
Et l'ancien président français François Hollande, en visite à Bukavu dernièrement, a déclaré, je cite, « On parle le moins des violences sexuelles commises en RDC. La Grande-Bretagne organise, comme vous le savez, en novembre prochain, une conférence sur les violences sexuelles dans les zones à conflit. Que peuvent alors espérer les victimes de ces violences en RDC à cette rencontre, monsieur le ministre?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni est en tête de cette initiative, de cet agenda depuis plus de 10 ans. Ce sur quoi je travaille personnellement, c'est les aspects préventifs. Nous savons que la violence sexuelle est très tragique et c'est utilisé comme une arme de guerre, non seulement en RDC, mais également dans les régions du Sahel,
en Ukraine
également. Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir un envoyé spécial qui s'occupe de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Je suis moi-même ministre des Affaires étrangères et du Développement, mais en plus de cela, j'ai aussi cette responsabilité-là de pouvoir porter haut ce message. Travaillons avec les Nations Unies, mais nous travaillons également avec la RDC, avec un focus particulier sur les survivants. Les solutions ne viendront qu'avec la participation et l'implication des survivants, mais il faut également une volonté de la part de la communauté.
Pour terminer, la RDC accuse le Rwanda, aux pays membres du Commonwealth, de l'agresser à travers les M23. Quelle pourrait être la contribution de la Grande-Bretagne à votre pays pour pacifier les relations entre les deux pays?
We have
very strong relations with near neighboring countries.
Nous avons de très fortes relations avec les pays frontaliers à la RDC. Ces questions discutées de manière très claire. Le Rwanda le reconnaît que la sécurité, la stabilité est ce qu'il faut pour la région, non seulement pour les pays environnants.
Monsieur Laure Tariq Ahmad, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invité, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Commonwealth et Développement, en même temps envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle. Lord Tariq Ahmad répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Koko. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.